Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Aujourd'hui, Canal Académie s'intéresse au sujet des universités d'entreprise. En quoi consiste-t-elle ? Combien en existe-t-il en France ? Est-ce un phénomène récent ? Structure d'enseignement et de formation au sein des entreprises, le terme et leur concept est sujet à interprétation alors que le phénomène se répand géographiquement un peu partout dans le monde. Pour faire le point sur le sujet, Annick Renaud-Coulon, experte mondiale des Corporate Universities, auteure de la première étude mondiale sur le sujet et présidente de Global CCU. Bonjour madame.
Bonjour.
Et l'académicien Bertrand Collomb. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né en 1942 et de 1975 jusqu'en 2007, Bertrand Collomb, vous avez été président du conseil d'administration du groupe français des matériaux de construction Lafarge, leader mondial dans son secteur. Et par ailleurs, vous êtes président du World Business Council for Sustainable Development.
Je l'ai été.
Vous l'avez été. Vous êtes toujours, j'imagine, un grand défenseur, un ardent défenseur du développement durable.
Tout à fait.
Et vous êtes aussi membre de l'Association française des entreprises privées. Et parmi vos ouvrages, signalons « Plaidoyer dans l'entreprise » publié en 2010, en collaboration avec Michel Drancourt. Et puis votre ouvrage de 2011 avec le frère Samuel Rouvillois, « L'entreprise humainement responsable ». Pour poursuivre cette présentation, j'ajouterai pour les internautes qui l'ignoreraient que vous êtes membre de l'Institut. Vous avez été élu le 10 décembre 2001 dans la section politique, statistique et finances, au fauteuil laissé vacant par le décès de Gaston Desfossés. Parmi vos confrères à vos côtés, il y a Yvon Gattaz. J'ajoute que vous êtes président de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2013, c'est-à-dire que vous présidez l'ensemble des sciences académiques de votre académie pour cette année. Chaque année, en effet, un nouveau président est nommé aux côtés du secrétaire perpétuel, qui est actuellement Xavier Darcos. Et puis, je vous demandais, Bertrand Collomb, quel est le thème annuel général des séances de l'académie que vous avez choisi ?
Alors, le thème de cette année, c'est la France dans le monde. Donc, c'est un thème assez large que nous déclinerons en plusieurs séries, les aspects géopolitiques de la présence de la France dans le monde, les aspects économiques avec le rôle des entreprises qui sont mondiales, des entreprises françaises qui sont mondiales, et puis l'attitude des Français face aux problèmes mondiaux.
Vaste programme, sujet qui montre l'enjeu de toutes ces grandes questions économiques. Alors, pour commencer peut-être, qu'est-ce qu'une université d'entreprise ? Quelle définition générale pourriez-vous l'un et l'autre donner en quelques mots pour commencer ?
Alors, une université d'entreprise est une structure éducative interne aux entreprises, quelle que soit leur taille, plutôt des grandes, mais on en trouve aussi dans des moyennes et dans, maintenant dans les plus petites, qui ont comme vocation d'aider à mettre en œuvre les stratégies d'affaires de l'entreprise et à fédérer autour de la culture, de l'identité, de la marque de l'entreprise. Et j'aimerais bien dire, pour compléter cette définition, qu'elles ne sont pas des centres de formation. Nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu après.
Bertrand Collomb, quelle est votre définition ?
Non, je suis assez d'accord avec la définition que Madame Renaud-Coulon vient de donner. Les entreprises ont eu traditionnellement des centres de formation, des organismes de formation. Quand elles ont créé une université d'entreprise, c'était avec l'idée de faire quelque chose de plus global, moins axé sur un campus, moins axé sur des murs, mais axé sur un système permettant pour l'ensemble de l'entreprise d'assumer des missions de formation, d'éducation, dont nous discuterons les objectifs probablement tout à l'heure.
C'est une formation sur mesure pour les entreprises, par les entreprises ?
Oui, disons que c'est une structure qui permet d'avoir un ensemble de programmes qui s'adaptent aux besoins de l'entreprise.
Alors, programme, c'est un mot qu'on trouve justement même sur les sites des universités d'entreprise. On ne parle pas d'enseignement, hein, on parle de programme. Avec la langue française, là, on a non pas des soucis, mais un vocabulaire spécifique.
Ben oui, parce que dans le fond, quand une université fait un cycle d'enseignement, c'est généralement un certain nombre d'années qui conduisent à un diplôme. Là, on parle de programme, en ce sens qu'il y a une unité. Par exemple, on a un programme de formation leadership qui va durer un certain temps, qui va s'étouler, s'écouler, se dérouler sur une certaine période, qui ne conduira pas à un diplôme spécifique, mais qui donnera aux cadres qui le suivront un plus dans l'évolution de leurs compétences et précisément de leur leadership. Alors, généralement, une université d'entreprise est en fait composée d'un certain nombre de programmes qui sont articulés les uns avec les autres et qui sont en cohérence avec les stratégies et les objectifs d'entreprise.
Annick Renaud-Coulon, peut-être revenons sur le premier terme, ce terme d'université d'entreprise. Comment est née cette idée d'abord ?
Elle est née aux États-Unis, où des grandes entreprises se sont rendues compte dans les années 80 qu'elles avaient du personnel qui ne savait ni lire ni compter et qu'il était grand temps de faire quelque chose pour les faire revenir vers le monde du savoir, de la connaissance. Et les États-Unis, comme on le sait, sont le pays du marketing. Ces gens-là ont tout de suite compris qu'on ne ferait pas revenir des personnes qui étaient issues du système éducatif sans diplôme sur les bancs de l'école ou dans un centre de formation. Et donc, dans un pays où l'université est très prestigieuse, effectivement, ils se sont dit, on ne peut pas attirer ces gens de manière... Enfin, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, quoi. Si l'on veut les faire revenir vers des dispositifs d'apprentissage, eh bien, on va leur proposer de venir dans une université. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Motorola, par exemple, a dit, ben voilà, nous allons créer Motorola University. Et le tour était joué.
C'était dans quelles années ?
C'était dans les années 80. On a eu auparavant d'autres universités d'entreprise aux États-Unis, comme celle de McDonald's, qui s'appelle Hamburger University, qui est créée en 1961, mais qui avait comme vocation purement et simplement d'apprendre à faire des hamburgers. Je préfère camper le décor de la création des universités d'entreprise telles qu'elles sont aujourd'hui, comme des leviers de transformation, de changement dans les organisations, au milieu des années 80. Donc voilà, c'est né aux États-Unis, pays du marketing, et dans un pays où l'université est prestigieuse, eh bien, on a accolé, d'une manière tout à fait autoproclamée, le mot « université » au nom de l'entreprise.
Peut-être que justement en français, ça ne sonne pas tout à fait dans le même sens, « université »,« university ».
Si, c'est exactement la même chose.
Parce que pour un français, l'université est affiliée à une ancienne tradition, le mot, au niveau de l'étymologie.
Alors,
s'agit-il de conceptions différentes ? Car en France, une université, ça représente plutôt un établissement d'enseignement supérieur.
Vous touchez là une difficulté sémantique du mot « université ». Il y a beaucoup de controverses quant à son origine, car effectivement, cette origine est incertaine. On fait remonter le mot « université » au XIIe siècle, lorsque on voit naître l'Université de Paris et celle de Bologne aussi, et d'autres qui vont suivre en Europe notamment. Mais certains pensent que le mot « université » était déjà utilisé à Constantinople en 425 ou à Fès avec l'Université Al-Karawin en 859. Donc en fait, cette notion-là est très ancienne. Elle est définie dans le latin du XIIIe comme étant « l'universitas », qui veut dire communauté. En fait, il s'agissait à l'origine de la corporation des enseignants et des étudiants d'une même ville. Donc, c'est intéressant de voir que c'est aussi un dérivé sémantique du mot univers, universel, qui renvoie à la notion de portée plus générale, qui s'étend à tous et partout. En tout cas, il est clair qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition unique et universelle de l'université. Car c'est un terme qui est utilisé dans tous les pays, dans toutes les langues. Il est très intéressant d'en voir la déclinaison dans les langues partout sur la planète.
L'anglais est tout simplement aussi la langue de l'entreprise aujourd'hui.
Oui, mais enfin, ceci étant, dans mon réseau mondial d'universités d'entreprise, je vois l'utilisation dans toutes les langues du mot université. Je le vois au Brésil, je le vois en Turquie, enfin, je le vois absolument partout décliné de cette manière. Donc, ça reste quand même un établissement d'enseignement supérieur. Dans la définition, c'est ce que chacun en a à l'esprit, n'est-ce pas, Monsieur Collomb ? Donc, son objectif, c'est la production de savoir, avec la recherche, sa conservation, sa transmission, avec notamment les études supérieures. On a donc, quelque part, l'idée d'un haut niveau de connaissances approfondies Voilà ce que l'on pourrait dire au niveau de la définition d'une université, en sachant que, de mon point de vue, c'est un maître mot, c'est-à-dire un mot qui a plus de valeur que de sens, un mot qui a un usage dont on peut s'amuser de voir qu'il est utilisé en dehors de l'enseignement supérieur et de la recherche, par le MEDEF avec ses universités d'été, le Parti Socialiste, le MoDem, l'UMP ont tous leur université d'été.
Et l'éducation nationale aussi.
Voilà, on a les universités intergouvernementales, comme celle de l'université de l'ONU par exemple. Et puis nous avons maintenant les universités d'entreprise. Donc en fait c'est un usage un peu, tout à fait étendu, variable, qui a une image quand même, qui renvoie à l'élite, au prestige, en tout cas dans certains pays comme la Chine, comme les États-Unis ou la Russie, et qui n'est pas tout à fait le cas chez nous, puisqu'on le sait, le prestige, ce sont les grandes écoles. En tout cas, il est aussi porteur de valeur, c'est-à-dire qui est égal à la représentation qu'en ont les uns et les autres, comment on projette la représentation qu'on a de l'université dans un contenu désigné par un contenant. Voilà, je pense que c'est un terme qui mériterait un peu plus de une approche, prendre le temps un peu de le définir, car les combats qui se livrent aujourd'hui autour de la souveraineté des universités, avec le classement de Shanghai par exemple, ou maintenant le classement européen U-Multirank, sont une preuve flagrante du problème identitaire de ces structures éducatives dénommées universités et qui ne sont pas sans rappeler ce vécu par les universités tout au long de l'histoire.
Quel était l'objectif de départ, Bertrand Collomb?
D'abord, pour revenir un instant sur le mot, quand les entreprises ont choisi le mot université, d'abord, elles ont choisi, comme on disait, d'abord aux États-Unis, puisque c'est, moi, d'après une étude du BCG, la première université d'entreprise serait celle de General Electric en 1956. Donc on est à peu près dans ces zones-là.
Oui.
Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'universités et des universités de niveaux assez différents. Entre Harvard et une toute petite université du Midwest, c'est pas la même chose. Donc, on a l'habitude davantage aux États-Unis que probablement qu'en France de donner le même nom à des choses qui sont à des niveaux d'élitisme assez différents. Mais pour le jeune entreprise, nous, on connaissait sans doute pas, au moment où on a décidé d'appeler université d'entreprise, on connaissait probablement pas l'histoire de la Sorbonne et la date de création de la Sorbonne. Mais le mot université avait quelque chose par rapport justement à un centre de formation haute, quelque chose de universel. D'abord, ça veut dire un objet plus large, un objet de formation plus complète, un objet un peu gratuit quand même, parce que l'université n'a jamais été un centre de formation pour un objet défini. Alors il vaut mieux que l'université vous prépare à faire quelque chose dans la vie, mais elle vous donne aussi une éducation. Donc je pense que pour les entreprises aussi, l'idée c'était d'avoir un système de formation assez large, assez ambitieux dans ses objectifs. Alors pourquoi faire ? Eh bien pour aider l'entreprise à s'adapter au changement de son environnement. Et c'était d'autant plus important dans les années 70-80, ou quand on l'a fait chez Lafarge, à un moment où l'entreprise devenant de plus en plus internationale, devenait de plus en plus diverse, et où il y avait un besoin de, disons, développer à l'intérieur de l'entreprise les valeurs, les principes et les stratégies de l'entreprise d'une façon plus cohérente. C'est une formation, une aide au développement des gens. Je crois que l'idée des entreprises, c'est que ce qu'on veut faire, c'est que nos cadres et nos collaborateurs se développent.
On peut parler de formation, alors.
Il y a un élément de formation tout à fait net. Il y a un élément d'apprentissage, mais il y a aussi un élément de formation très important.
Annick
Renaud-Coulomb. Oui, je pense que ce qu'on peut dire des universités d'entreprise, c'est que ce sont des espaces d'apprentissage. Le mot que l'on cherche, là, c'est le mot « learning » qu'on ne peut pas traduire en français. Je pense que le mot « training », le mot « formation » a beaucoup vieilli. Car à l'époque de la connaissance, d'Internet, de l'accès à la connaissance, tel qu'il est aujourd'hui, on va devoir instituer des espaces d'éducation qui soit beaucoup plus motivant, attractif pour les personnes. J'aime bien dire que c'est un espace d'apprentissage plus qu'un espace de formation. L'espace de formation me fait penser au Pygmalion qui forme sa statue et qui s'admire dedans. On n'est plus du tout dans cette époque-là. Et donc ce sont des espaces d'apprentissage, des espaces d'information, de communication, de structures de mise en commun, des structures de confrontation où on va débattre, des structures de médiation, de démocratisation du management également, et aussi, j'aime bien le dire, des lieux de culture.
Bertrand Collin.
Parce qu'on a, en France une situation assez paradoxale. On a fait énormément pour la formation continue depuis le système que Jacques Delors, dans le gouvernement Chaban-Delmas, avait mis en place. L'obligation de formation continue, la nécessité de dépenser.
Je voulais vous, justement vous demander comment se placer les universités d'entreprise par rapport à la formation continue.
Si vous voulez, on s'aperçoit que en France, la formation continue s'est bien développée. Elle est au-delà du minimum légal. Mais en même temps, il y a une évolution, notamment récemment, vers un raccourcissement des périodes de formation. Qui fait que, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est de plus en plus dans des formations d'apprentissage au métier immédiat ou d'aide ou d'amélioration de la performance dans, et donc des choses courtes, donc des choses pas approfondies. Et l'idée de créer des universités d'entreprise, ça va à l'encontre de ça. Ça va au contraire vers ne pas, on n'est pas sur le job training pour parler franglais si on peut se le permettre sur Canal Academy. On est vraiment sur l'éducation des collaborateurs de l'entreprise, à l'interaction entre l'entreprise et le monde et faire en sorte qu'ils soient plus efficaces, qu'ils comprennent mieux, qu'ils intègrent mieux les valeurs, les objectifs de l'entreprise, ses objectifs stratégiques, ses objectifs de culture de management dans un monde qu'il faut qu'ils comprennent mieux aussi et qui est complexe.
Bertrand Collomb, quand vous étiez le président du groupe Lafarge, vous avez créé une université d'entreprise pour ce groupe.
L'université d'entreprise de Lafarge a été créée en 2003 ou 2004. C'est-à-dire, je venais de quitter la direction générale et j'avais gardé la présidence. Donc, c'était un mouvement que j'avais initié et qui a été concrétisé par mon successeur immédiat à la direction générale.
Ça correspondait pour vous à une nécessité? Là, il fallait à ce moment-là créer cette université d'entreprise?
Ben, si vous voulez, ça correspondait à un moment de l'entreprise. J'avais fait une très grosse acquisition qui avait fait de nous le leader mondial dans notre secteur. Mais ça veut dire qu'on était à une période où plus de 50% des collaborateurs de l'entreprise avaient moins de 5 ans d'ancienneté.
Donc là, ça avait un effet fédérateur alors.
Et voilà. Et en plus, on avait un changement de génération. Je savais que j'allais quitter la direction d'entreprise et je préparais la nouvelle génération qui se mettait en place. Et il y avait eu un grand effort qu'on avait appelé, là encore je vais parler anglais en m'en excuser, Leaders for Tomorrow, Leaders pour demain, où on avait essayé de mettre toute l'entreprise en phase sur les objectifs des 20 ans suivantes, c'est-à-dire la génération suivante de management. Et d'ailleurs, c'était Bruno Lafont, qui est le président actuel de Lafarge, qui avait été chargé de coordonner. Il n'était pas officiellement nommé comme mon successeur à l'époque, mais les gens intelligents pouvaient déjà comprendre que c'était dans ce sens-là que ça irait. Il avait été chargé d'animer ce projet. Et c'est dans le cadre de ce projet et après ce projet qu'on s'est dit, il faut un outil permanent. Il y avait un projet qui durait un certain temps, mais il faut un outil permanent qui assure cette mise en tension de l'ensemble du système vers les objectifs de l'entreprise.
Si je vous comprends bien, l'un et l'autre, l'université d'entreprise, c'est un formidable outil pour penser l'avenir de la société ou de l'entreprise. C'est tourner vers ses objectifs et c'est à la fois un moyen de développer peut-être ce qu'on appelait, je ne sais pas si c'est toujours valable, la culture d'entreprise. C'est quelque chose, ce sont des concepts qui ont peut-être été un peu décriés ou critiqués. Mais en même temps, c'est surtout un formidable levier pour penser l'entreprise de demain. Annick Renaud-Coulon, vous êtes à la tête d'un réseau d'universités d'entreprise. Comment vous voyez les choses?
Oui, effectivement, elles ont un regard de prospective. Ça, c'est évident à jouer. Ce que je voudrais peut-être dire et préciser pour nos éditeurs, bien leur faire comprendre ce qu'est une université d'entreprise par rapport à un centre de formation. Sachons que dans nos grandes entreprises, il y a des centres de formation. Les gens apprennent leur métier, ils sont mis en situation, en salle, avec des formateurs. C'est extrêmement important. Il faut que ceci continue à se développer. Un centre de formation, c'est un lieu où on va s'occuper de l'employabilité des personnes, de leur efficacité personnelle, de leur professionnalisation, de leur parcours professionnel, de leur intégration, de leur sécurité, de leur bien-être même, en tout cas je l'espère. C'est donc, et c'est extrêmement important, le centre de formation, on se préoccupe du champ humain et social. Et il est centré sur l'individu. Alors que l'université d'entreprise, elle, est chargée de travailler sur l'intelligence collective. On n'est plus sur l'individu, on est sur le collectif. Il est important que collectivement, l'entreprise puisse donner la possibilité à ses salariés, à ses parties prenantes internes, mais aussi externes, et ça serait intéressant de voir par rapport au développement durable dont nous parlions tout à l'heure, comment on mobilise aussi les parties prenantes externes sur les stratégies d'affaires dans tous les domaines, que ce soit humain, social, économique, financier, business, environnemental, technologique, etc. Elles ont comme responsabilité d'aider à développer l'efficacité collective. Donc c'est pour cela qu'on voit souvent dans ces universités des activités qui sont des groupes de résolution de problèmes, des strategic expeditions, on va faire des communautés de pratique, on va vraiment travailler sur des équipes naturelles, on va les aider, on va faire du coaching, etc. Et donc, simplement pour terminer, elles travaillent aussi, elles ont comme vocation de fédérer autour de la culture. C'est extrêmement important que chaque salarié comprenne la culture de son entreprise, de quoi est-elle faite, etc. Et le fait de réunir des gens dans une université d'entreprise va permettre à chacun de mieux se trouver dans l'organisation. Et pour finir, la distinction entre deux centres de formation et université d'entreprise, l'université d'entreprise est un lieu de pouvoir et d'influence, parce que souvent, en général, elle est très proche du PDG ou d'un membre du comité exécutif qui en est le responsable. Donc c'est aussi un lieu de transformation, c'est parce qu'on va mobiliser l'intelligence collective avec des gens qui ont le pouvoir, l'influence de faire changer les choses, qu'alors ces structures éducatives deviennent un levier extrêmement important, où on va y faire effectivement de la prospective, mais pas seulement, alors que les centres de formation, eux, par essence, restent très éloignés des directions générales et n'ont pas le pouvoir de transformer l'entreprise. Vous voyez, la différence, elle est énorme. C'est pour cela qu'il est important de comprendre, par exemple, sur l'université de GE, qui est née dans les années 50, elle est devenue vraiment université d'entreprise dans les années 80, quand Jack Welch a décidé d'en faire un lieu de transformation de GE. Il a passé commande à Crotonville de transformer GE, de débureaucratiser GE, de rapprocher l'entreprise de ses clients, de ses marchés, de ses fournisseurs. Et donc c'est grâce à l'éducation qui, à ce moment-là, réunit le maximum de gens qu'ensemble, eh bien, on devient plus intelligent. On comprend mieux les enjeux et on se mobilise davantage sur les efforts à faire, les compétences nouvelles à acquérir.
Alors, comment les entreprises financent justement cet outil de formation ?
Oh bah ça, si vous voulez, c'est financé dans les budgets de l'entreprise. C'est une dépense de l'entreprise parmi d'autres. Il n'y a pas de mode de financement particulier.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que toutes les entreprises peuvent s'offrir, entre guillemets, une université d'entreprise ? Est-ce qu'il y a un stade, un niveau ? Est-ce que c'est fonction de la taille de l'entreprise ?
Oh bah dans la mesure où il faut créer une structure pour faire fonctionner une université d'entreprise, il faut une taille minimum. Mais sinon... Si vous voulez, la structure peut être relativement légère, ou elle peut être plus ou moins lourde, suivant la taille d'entreprise. Donc, c'est pas quelque chose qui est réservé aux très grandes entreprises, mais c'est quelque chose qu'une très petite entreprise aura du mal à faire. À ce moment-là, c'est un coin de la tête du patron qui s'occupera des actions de formation liées aux transformations d'entreprise. Ce ne sera plus une structure d'université d'entreprise.
Est-ce qu'on peut imaginer que les universités d'entreprise des plus grandes entreprises ou des entreprises qui justement disposent puissent entretenir des liens ou créer des liens avec des structures plus petites qui auraient besoin de bénéficier de cette expérience ? Est-ce que ce qui est dispensé dans ces universités d'entreprise peut être utile à d'autres entreprises qui ne pourraient pas ou qui ne disposent pas de tels moyens ?
Je ne sais pas, Madame Renaud-Coulon a peut-être des exemples dans un sens ou dans l'autre, mais il me semble que quand nous définissons l'université d'entreprise comme un instrument de transformation d'entreprise, et ce mot transformation est tout à fait fondamental, parce que finalement ce qui caractérise l'entreprise moderne, c'est qu'elle est tout le temps en transformation. C'est une raison d'incompréhension de temps en temps de notre société vis-à-vis de cette tendance constante de l'entreprise à changer. C'est qu'on a l'impression que non, il faudrait arriver à un état stationnaire. Mais il n'y a pas d'état stationnaire. Donc, comme l'université d'entreprise est un outil de transformation, c'est très lié à l'entreprise elle-même. Alors, on peut sous-traiter des modules, il peut y avoir des compétences qui peuvent servir à une autre entreprise, mais le projet lui-même, il est lié à l'entreprise.
Il est lié complètement et attaché à l'entreprise qu'il a développée.
L'université d'entreprise, ce n'est pas non plus un assemblage de moyens. Si vous, très souvent, c'est un programme qui fait appel à des moyens extérieurs. Ce qui est important, c'est l'inspiration, c'est la cohérence du programme. Ensuite, il peut y avoir des moyens qui viennent d'universités plus classiques, qui viennent d'écoles ou qui viennent d'autres entreprises, qui viennent de consultants, qui viennent, etc.
Annick Renaud-Coulon.
En fait, dans le réseau que j'anime à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne également, pour répondre à votre question, on s'y mélange des directeurs de grandes entreprises et celles de plus petites. Et donc, d'une manière très pragmatique, les échanges se font, les entraides ont lieu entre les grandes et les petites, mais aussi entre celles qui entrent et celles qui sont matures, qui ont déjà des années d'existence derrière elles. Elles ont des compétences, elles font du benchmarking entre elles et il y a de l'entraide, quoi. Ça, c'est extrêmement intéressant à observer.
Vous diriez qu'en France, le phénomène des universités d'entreprise est peu développé par rapport aux autres pays européens ? Où est-ce qu'on se situe, nous, en France, par rapport au niveau européen et au niveau mondial ?
On est très en avance. Nous avons beaucoup d'universités d'entreprise en France.
De l'ordre de ?
D'une centaine. À même niveau que l'Allemagne, les Pays-Bas, un petit peu moins en Angleterre, mais c'est déjà un chiffre aussi extrêmement élevé. Le pays champion, c'est bien sûr les États-Unis, mais je peux vous dire aussi que ça se développe énormément en Chine, en Inde, au Brésil, un peu partout dans le monde. Je peux dire qu'il y en a maintenant sur les 5 continents.
Bertrand Collomb, quel est l'enjeu du développement de ces universités d'entreprise ?
Si vous voulez, l'enjeu, c'est l'enjeu de nos grandes entreprises. Nous avons devant une situation économique qui n'est pas toujours très brillante en ce qui concerne notre économie. Mais nous avons la chance d'avoir un certain nombre de grandes entreprises qui sont des grands leaders mondiaux. Nous en avons plus que d'autres pays, plus que l'Allemagne, plus que l'Angleterre. Eh bien, ces entreprises ont besoin d'un outil pour maintenir leur leadership ou développer leur leadership. Donc, c'est important qu'elles se créent cet outil. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles il y en a davantage d'universités d'entreprise en France, parce qu'il y a davantage de grandes entreprises qui sentent ce besoin. Étant présent, par exemple, quand on est présent comme Lafarge l'est dans 70 pays, il faut le besoin d'assurer cette cohérence intellectuelle et cette cohérence de leadership est d'autant plus grand. Si on est une entreprise américaine qui a 70% de son activité aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Si on est entreprise française qui a 15% de son chiffre d'affaires en France et 85% de son chiffre d'affaires à l'étranger dans plein de pays, il faut se donner du mal pour arriver à ce que, quand on a 70 000 collaborateurs comme Lafarge par exemple, pour assurer l'alignement de tout le monde, la cohérence de tout le monde dans les objectifs d'entreprise.
Les universités d'entreprise offrent une offre éducative à la fois à ses cadres, mais aussi aux autres salariés du groupe. Est-ce qu'il y a des différences ?
Alors, vous parlez là de la cible des universités d'entreprise. Selon les pays, selon les cultures, les cibles sont soit effectivement l'encadrement, les managers, les leaders, ou alors l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les techniciens. On peut avoir aussi en cible des étudiants des systèmes éducatifs. On peut avoir aussi, j'ai pu voir ça en Inde ou au Brésil, ou aux États-Unis également, des universités d'entreprise qui s'occupent des petites filles des bidonvilles qui ne verront jamais une école de leur vie. En Inde, j'ai vu ça, où on les forme, on les alphabétise, on leur apprend un peu de couture, les produits, les soins de santé, etc. Comment arriver à se débrouiller dans la vie. Donc certaines universités d'entreprise sont aussi je vais dire, centrée sur la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de l'entreprise par rapport au bassin d'emploi où sont leurs usines, où sont leurs implantations locales. Certaines universités d'entreprise aux États-Unis s'occupent des enfants noirs, des ghettos, etc., les faisant venir dans leurs infrastructures éducatives durant le week-end, on leur fait faire du sport, on leur réapprend à dire bonjour, merci, etc. Donc elles dépassent de plus en plus un rôle centré sur l'interne et elles ont aussi intérêt à se développer dans des environnements où parfois il y a une grande misère. Donc en fait, comment développer une entreprise, un îlot de richesse dans un océan de misère, c'est absolument impossible. Donc il est effectivement important qu'elle se mobilise aussi sur les enjeux de société. Je vais donner un autre exemple. J'avais vu l'université de Heineken, qui est le plus grand brasseur au monde, qui a développé des projets. Voilà, les universités développent aussi des projets d'éducation sur la protection de l'eau. Et ça, c'est voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que collectivement, toutes les personnes qui contribuent à la création de richesses pour l'entreprise comprennent qu'il y a une responsabilité envers les communautés locales, envers les familles des salariés, envers un certain nombre de personnes qui ont une influence sur l'entreprise aussi, de se mettre en tension, de bien comprendre ce qu'elles ont à faire pour que on se développe dans un mieux vivre collectif. Voilà, donc c'est intéressant aussi de voir que j'en ai de plus en plus, et moi je pousse à ça, qui se chargent, qui vont offrir des offres éducatives. Alors ça peut être des programmes, des séminaires, mais ça peut être aussi du e-learning, ça peut être un certain nombre de dispositifs d'apprentissage que l'on va offrir à d'autres populations qui en ont besoin.
Le e-learning est une manière pour les universités d'entreprise de toucher un très grand nombre, j'imagine, de salariés sur des points précis ou des formations précises. Quels sont les retours que vous avez eus l'un et l'autre du bénéfice, justement, auprès de ces salariés qui ont bénéficié de ces offres éducatives ?
Alors, vous posez là la question de l'évaluation de ces structures. C'est un peu un serpent de mer. C'est-à-dire que autant on est capable d'évaluer à chaud un programme qui s'achève, un cursus, un projet qui aura été commandé par la direction générale, comme certaines universités d'entreprise l'ont, elles ont des commandes du PDG d'aller trouver par exemple des leviers de développement dans certains pays, etc., via les universités. Dans ces cas-là, on est capable de dire à l'arrivée, oui, les gens sont satisfaits, on a pu mettre ça en pratique. Mais plus globalement.
Est-ce qu'on a un exemple de quelque chose qui aurait changé après une formation comme ça?
J'en ai des tonnes à vous donner. Mais comment me centrer sur un exemple plutôt qu'un autre? Je vois les évaluations qui sont faites, des films qui sont faits par les universités d'entreprise pour montrer qu'elles créent de la valeur pour l'entreprise. Alors, elles créent de la valeur humaine. Comment est-ce qu'on peut chiffrer cela? C'est extrêmement compliqué. Mais ce qu'on entend souvent, c'est de dire, j'ai participé à tel programme, j'ai participé à tel projet, je ne vois plus mon entreprise de la même manière, je comprends mieux mon job au sein de l'entreprise, je me sens davantage mobilisée.
Partie prenante.
Absolument.
Bertrand Collomb.
Vous savez, dans l'entreprise, on ne dépense de l'argent que si on a l'impression que ça a un résultat positif.
Oui, bien sûr.
Donc le meilleur témoignage d'évaluation de ces structures, c'est de savoir si elles durent ou pas.
Oui.
Parce que si c'est pas efficace, au bout d'un certain temps, ça disparaît. Et on constate qu'effectivement, ça a plutôt tendance à s'accroître, à se développer. Alors avec des changements d'orientation, avec des évolutions qui traduisent l'évolution de l'entreprise. Mais je pense que lorsqu'on voit une université d'entreprise dans l'entreprise durer plus que 10 ans, ça veut dire que c'est utile. Sinon, ça disparaîtrait. On peut très bien être la danseuse d'un président. Mais si on sert à rien, le président suivant l'arrêtera. Donc si ça continue, ça prouve que ça sert à quelque chose.
Quelle est la situation juridique de ces structures d'université d'entreprise?
Généralement, les universités d'entreprise n'ont pas de personnalité morale et donc sont souvent des structures au sein de la structure entreprise. Certaines ont été instituées avec une personnalité morale, mais elles ne sont en aucun cas un établissement d'enseignement supérieur. Et donc, il est important de dire que le titre qu'elles utilisent avec le mot « université » n'est en rien une appellation juridique du terme tel qu'il est utilisé par le Code de l'éducation, qui précise que aucun établissement privé d'enseignement supérieur ne peut utiliser le titre d'université. Comme les universités d'entreprise ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur au sens juridique du terme, cet article du Code de l'éducation française ne s'applique pas en ce qui concerne notre pays.
Il faut simplement être sûr qu'elle ne puisse pas donner l'impression à l'extérieur d'être un établissement d'enseignement supérieur.
Absolument.
Parce qu'elles ne sont pas en concurrence déjà. Et
elles ne le sont pas, puisqu'on voit qu'elles peuvent faire venir des ouvriers, des gens qui ont besoin d'apprendre, enfin, d'acquérir des compétences au métier.
Il ne
faut pas créer de confusion. C'est vraiment deux mondes très différents. On peut se réjouir que le monde de l'entreprise utilise le mot université, car s'il l'utilise, cela signifie qu'il porte un intérêt évident au monde de l'enseignement supérieur.
Certains universitaires dirait que c'est l'hommage du vice à la vertu.
Exactement.
Donc ce sont des structures qui vraiment risquent d'être pérennes et même de se développer à d'autres échelles et peut-être pour d'autres entreprises. Comment vous voyez l'évolution de ces universités d'entreprise ?
Si elles sont bien bâties sur des fondations proches du lieu de pouvoir et d'influence de l'entreprise, donc si elles sont conçues dans leur genèse comme étant des lieux de transformation et de learning, alors elles vont continuer à se développer au même rythme que les évolutions sociétales, au même rythme d'ailleurs que les universités se sont développées au cours de l'histoire, en s'appropriant les changements du monde. Il est difficile de dire ce qu'elles seront dans 10 ans. Je donne fort à parier qu'elles existeront et qu'elles auront cru en nombre partout sur la planète, mais elles ont beaucoup de challenges à relever. Elles ont notamment, si vous me le permettez, à faire comprendre qu'elles n'ont pas vocation à remplacer les systèmes éducatifs. Elles ne sont pas des structures.
Elles ne pourront pas l'être parce qu'elles ne sont pas diplômantes.
Attendez, certaines le sont. J'ai des universités d'entreprise, je pense à Petrobras au Brésil, où nous avons 500 salariés au sein de l'université de Petrobras University, où on a des programmes qui aboutissent non seulement à des MBA, mais aussi à des PhD. Mais c'est exceptionnel. En général, si elles développent des parcours professionnalisants et diplômants, elles le font avec les systèmes éducatifs.
En partenariat
avec les systèmes éducatifs. Mais je voudrais dire qu'en France, le compte est loin d'y être. C'est-à-dire que les universités d'entreprise dans notre pays ont tendance, un tropisme très fort, à développer des partenariats ou en tout cas développer des projets éducatifs avec les business schools ou avec les grandes écoles, mais peu ou pas du tout avec les universités françaises.
Bertrand Collomb, je m'adresse à vous. Vous avez, dans votre parcours, travaillé justement à développer les liens entre les sciences sociales et les entreprises. Quel est votre avis sur ce point délicat ?
Là, on touche le problème des relations entre les universités et les entreprises. Ce n'est plus le problème des universités et d'entreprise. Alors ça, c'est un vaste problème sur lequel on a une histoire un peu lourde parce que finalement, quand les entreprises ont eu des problèmes, historiquement, les universités n'ont pas été intéressées à travailler sur ces problèmes. Je parle du 17e, 18e, 19e siècle. Les choses ont bien évolué depuis et je pense qu'il y a un rapprochement qui est en cours entre les universités et l'entreprise. Et toutes les fois que les universités s'intéressent aux questions qui intéressent les entreprises, je crois, ont envie d'élargir leurs relations, de ne pas être en relation uniquement avec les business schools, uniquement avec les grandes écoles, mais d'être aussi en relation avec l'université. L'époque, si vous voulez, où telle entreprise était une citadelle des anciens de l'école des mines ou des anciens de l'X, cette époque-là est quand même assez largement révolue. Et il y a une ouverture, un intérêt, notamment au niveau régional, dans les relations avec l'université. J'étais moi-même récemment à Nancy, justement dans un débat sur la relation université-entreprise, on s'apercevait qu'il y avait du côté des entreprises une assez grande bonne volonté pour essayer d'élargir leurs relations, mais qu'à ce moment-là, il fallait que les universités s'y intéressent. Vous avez dans l'université deux comportements possibles. L'un qui est de dire, il faut que j'adapte mon offre de formation aux réalités de la société, pas simplement aux réalités économiques, mais aussi aux réalités économiques. Ou bien, il y a un autre comportement qui dit, moi, je suis l'étalon de mesure absolu de la qualité intellectuelle, et c'est aux autres à venir me supplier de travailler pour eux. Il est évident que dans ce deuxième cas, ça marche pas très bien. Mais il y a de plus en plus d'universitaires qui sont intéressés à travailler avec des entreprises, et il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées. Donc ça, faut pas donner trop d'importance à cette césure université, grandes écoles ou business school. Et en tout cas, c'est pas vrai à l'international, parce que dans les autres pays, il n'y a pas cette césure.
Ces frontières aussi nettes.
Et donc, les entreprises internationales ont tout à fait l'habitude de travailler avec les universités internationales. Donc, elles voient pas pourquoi elles travailleraient pas avec ce que nous appelons université, et elles travailleraient uniquement avec ce que nous appelons grandes écoles. C'est quelque chose qui n'a plus beaucoup de sens.
Annick Renaud-Coulon, comment vous voyez l'Internet dans ce développement ?
Là, vous me tendez une perche pour que je vous parle de ma plateforme CUCP, la plateforme que j'ai mise en place à l'échelle mondiale, où j'ai des membres maintenant de tous les continents, qui sont tous des directeurs d'universités d'entreprise, qui se réunissent grâce à Internet et grâce à cette plateforme pour échanger à la fois sur leurs problématiques actuelles et peuvent échanger aussi sur les contenus. On apprend beaucoup, si vous voulez, dans ce monde, de l'expérience de ses pairs. Et donc, c'est vrai qu'Internet est une chance extraordinaire pour les patrons d'universités d'entreprise d'apprendre et aussi d'avoir des liens entre personnes qui exercent le même métier sur tous les continents. Maintenant, pour les bénéficiaires eux-mêmes, effectivement, Internet est une grande chance pour accéder à des contenus. On sait maintenant que les grandes universités américaines mettent gratuitement en ligne les contenus.
En France aussi, le Collège de France.
Voilà, ça devient de plus en plus une réalité.
L'Académie
partout.
Des sciences morales et politiques.
On est dans un monde totalement transformé et assez fantastique, oui.
Peut-être pour terminer, Bertrand Collomb, à quelle idée, à quelle valeur êtes-vous profondément attaché au sein de l'entreprise sur l'évolution personnelle des salariés ?
Disons que mon expérience m'a montré qu'on a toujours tendance à sous-estimer la valeur des hommes et des femmes de l'entreprise. Que finalement, quand on les pousse, quand on les aide, on est capable, ils et elles sont capables de faire beaucoup plus que ce qu'on imagine. Donc, il y a un problème, la condition, c'est de respecter les personnes, c'est de ne pas les considérer comme des objets, c'est de les considérer comme des sujets, comme des acteurs, comme des partenaires, et de les mettre en situation de comprendre et de participer aux objectifs de l'entreprise. Et c'est un peu ça dont nous parlons, finalement, avec les universités d'entreprise. Et quand on réussit ça, on s'aperçoit que les gens se dépassent, et que les gens révèlent des compétences, des qualités, des capacités de développement extraordinaires. Alors bien sûr, c'est pas vrai à 100%, il y a l'exception qui confirme la règle. Mais en général, on ne parie pas assez sur l'homme. Et quand je dis sur l'homme, c'est bien sûr l'homme et la femme, vous avez compris. Et je dirais que c'est autant une expérience qu'une conviction, parce que j'ai été, dans le courant de ma carrière, surpris plusieurs fois par le fait que des gens dont je considérais qu'ils avaient certaines limitations ou dont je considérais qu'ils avaient des côtés forts mais des côtés faibles et qu'ils auraient beaucoup de mal à se corriger du côté faible, j'ai constaté qu'au contraire, si on était dans des situations de franchise, de confiance, si on leur faisait prendre conscience des problèmes Et si on les aidait, si on leur donnait les moyens d'un développement personnel, on pouvait obtenir des choses magnifiques. Nous donnons le prix Olivier Le Serre pour le management humaniste. Quand je dis nous, c'est l'Académie des sciences morales et politiques. Nous avons donné le prix Olivier Le Serre pour le management humaniste à un livre écrit par un patron indien, Vinit Nayat, patron d'une affaire d'informatique, qui a fait un livre dont le thème, c'est que si on donne de la liberté, de l'initiative aux employés, aux collaborateurs d'une entreprise, il se passe des choses merveilleuses. J'ai été très heureux que nous donnions ce prix à ce patron indien, et j'ai été très heureux que ce soit un patron indien qui, venant d'une culture complètement différente, d'une expérience complètement différente, qui vienne nous dire cela, car c'était vraiment moi mon expérience et ma conviction intime.
Merci de ce beau témoignage, Monsieur Bertrand Collomb. Madame Annick Renaud-Collomb, je vous remercie pour vos éclairages respectifs sur ce sujet des universités d'entreprise qui sont amenées à se développer, qui se développent et que le grand public peut-être ignore encore, en tout cas ceux qui ne sont pas en lien direct avec une grande entreprise. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.